Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. La semaine dernière, ceux qui étaient là, ça change toutes les semaines, avec les vacances, il y en a qui sont là, d'autres qui reviennent, d'autres qui repassent, etc. Mais c'est important pour nous de créer une unité dans les différents cultes, qu'on puisse avoir un peu une idée plus... qui se suivent. Et donc, la semaine dernière, Christian nous a enseigné sur le livre de l'Exode, et plus particulièrement sur le chapitre de la manne. La manne, qu'est-ce que c'est les enfants? Alors, la manne. La manne, dans le désert, quand les Juifs, les Hébreux, sont partis d'Égypte pour aller vers le pays promis, il fallait traverser le désert. Et ça a duré 40 ans. Et pendant ces 40 ans, ils étaient dans le désert et il fallait qu'ils se nourrissent. Et Dieu, à ce moment-là, a pourvu à leurs besoins. Il a envoyé la manne, c'était une nourriture spéciale, il n'y en a plus, elle n'existe plus. Et cette nourriture spéciale, on l'a trouvée le matin, on prenait ce dont on avait besoin pour la journée, et c'est tout. Et la veille du sabbat, on prenait double portion, parce que le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne. Donc c'était une nourriture essentielle. Une nourriture dont les Hébreux avaient besoin pour vivre. Sans cette nourriture, ils seraient probablement morts dans le désert. Et donc Christian a bien insisté sur cette idée que cette nourriture que Dieu donnait était indispensable pour la vie sur la terre. Et immédiatement, ou plutôt à la fin de son message, il a fait le lien entre la manne et la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est la nourriture spirituelle que chacun doit prendre chaque jour pour se nourrir, pour grandir, pour devenir chaque jour plus saint. Alors, cette manne, les Juifs, les Hébreux, ils auraient voulu que ça dure toujours. Et quand Jésus vient sur la terre et qu'il fait le miracle de la multiplication des pains, qu'est-ce que les gens imaginent tout de suite? Ça y est, la nouvelle manne, c'est cet homme, Jésus, qui pourvoit à nos besoins. Donc, aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Jésus prend des pains, des poissons, les multiplie, et voilà, et c'est tous les jours comme ça maintenant. Ils n'avaient bien sûr rien compris. Ils n'avaient absolument pas compris que la manne, c'était un cadeau, mais ce n'était pas le pain de Dieu. Le pain de Dieu, Jésus à ce moment-là leur a expliqué, il leur a dit, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie. Je suis, dit Jésus, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Donc on a bien compris que la semaine dernière, on a beaucoup insisté sur le pain, sur cette nourriture de la manne qui aujourd'hui était la parole de Dieu. Mais on n'a pas insisté sur ce qui était cette eau. Parce que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc l'eau, c'est une eau bien particulière. C'est l'eau vive. Et cette eau vive, eh bien, je voudrais vous en parler ce matin. Alors pour ça, j'aurais pu faire comme Christian, j'aurais pu prendre l'Ancien Testament, le livre de l'Exode, et dans le livre de l'Exode, il y a un passage où Moïse frappe avec son bâton sur un rocher, et qu'est-ce qui se passe ? L'eau jaillit. Mais j'ai choisi de ne pas prendre ce texte-là, d'aller chercher plutôt un texte du Nouveau Testament, et en particulier le passage de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. J'espère qu'à la suite de ce message, vous comprendrez mieux cette phrase de Jésus, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et par ricochet, pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons du mal à comprendre pourquoi certains membres de notre famille ou bien nos meilleurs amis restent insensibles à Dieu alors qu'ils nous trouvent gentils, qu'ils trouvent nos amis chrétiens gentils, accueillants et tout ce qu'on veut, mais ils veulent bien tout, sauf Jésus. Alors pour ça, je vous invite à plusieurs étapes dans ce passage de l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. Première idée, le contexte géographique de l'histoire de la Samaritaine. Vous connaissez cette carte ? Ça va ? Bon. C'est Israël, on est d'accord ? C'est le pays promis. C'est Israël au temps de Jésus. On remarque trois régions particulières. La Galilée en haut, la Samarie au milieu, la Judée en dessous. Où est Jésus ? Où vivait Jésus ? Oui ? En Galilée, ouais. Donc, il a passé toute son enfance en Galilée. On sait qu'il est né en Judée, hein, il est né à Bethléem, mais il a vécu toute son enfance à Nazareth et une partie de sa vie adulte. Hein. Donc, la Galilée, c'est son pays. Donc, tout à fait en haut. Mais, après avoir choisi ses disciples, après avoir commencé son ministère, Jésus a envie d'aller annoncer la bonne parole en Judée, donc en bas. Mais en Judée, il y avait... Donc, en Judée, il va s'installer, il demeure là, et qu'est-ce qu'il fait au début de son ministère ? Il baptise. Mais, à ce moment-là, il a un concurrent sur la Judée, c'est qui ? C'est Jean-Baptiste. Et pour les Judéens, il s'est produit une espèce une difficulté. Hein, et les disciples de Jean ne comprenaient pas. Les Judéens ont vraiment souhaité que Jésus s'en aille. Et Jésus, sentant cela, cette opposition, il a voulu donc retourner en Galilée. Mais pour retourner en Galilée, il fallait qu'il passe par la Samarie. La logique aurait voulu que Jésus et ses disciples traversent cette région de la Samarie sans s'arrêter. Pourquoi ? Parce que la Samarie était occupé par des habitants, les Samaritains, qui étaient en fait ce qu'aujourd'hui on pourrait dire les Palestiniens, c'est-à-dire des gens qui occupent le pays, mais ne sont pas ceux qui sont à l'origine de ce pays. Et donc ces Samaritains étaient venus s'installer en Israël dans le temps de l'exil, quand ils étaient exilés à Babylone. Hein ? Donc, les Samaritains ne sont pas des Juifs. Et donc, au contraire, ils sont opposés aux Juifs. Il y a quand même, quelque part, une espèce de guerre. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui, un juif devait traverser Gaza pour aller dans une autre partie d'Israël. Évidemment, on passe le plus vite possible quand on peut passer, parce que, en fait, c'est très compliqué. Et donc là, la situation est pratiquement semblable. Donc la logique aurait voulu que Jésus et ses disciples traversent la région sans s'arrêter. Et surtout, sans parler à quiconque. Or, Jésus voulait se faire connaître aux Samaritains. Contexte historique maintenant. C'est Jésus et c'est la Samaritaine. Alors, si vous pensiez que Jésus, le Fils de Dieu, était un surhomme, et donc qu'il n'était jamais fatigué, eh bien, vous vous tromperiez. Jésus était un homme, et donc, la traversée de la Samarie était longue, et il était fatigué. Donc, quand on est fatigué, en général, le plus simple, c'est de s'arrêter. Et justement, dans une ville appelée Sichar, près d'un champ que dans l'histoire, Jacob avait donné à son fils Joseph, dans ce champ, il y avait un puits, le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit sur la margelle. Ses disciples, pendant ce temps-là, où sont-ils? Ils sont moins fatigués que Jésus, donc Jésus leur dit, allez donc faire les courses, allez chercher à manger. Donc il est tout seul, Jésus. Il est tout seul quand arrive une femme samaritaine. Jésus, fatigué, aurait pu rester allongé à côté et puis faire la sieste. Mais s'il avait fait ça, il n'aurait pas rencontré la Samaritaine. Or, Jésus voulait rencontrer la Samaritaine. Troisième point, la demande. Jésus dit à la Samaritaine, « Femme, donne-moi à boire. » La femme, « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi, qui suis une femme samaritaine ? Mais les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. » L'affaire commence très mal. La logique aurait voulu que Jésus laisse tomber et attendre qu'une personne un peu plus aimable que cette samaritaine vienne et lui donne à boire. Mais Jésus voulait enseigner la samaritaine. Quatrième étape, l'enseignement. Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. La Samaritaine, Seigneur, tu n'as rien pour puiser, ce puits est profond, où aurais-tu donc ton eau vive ? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a creusé ce puits, qui en a bu lui-même, ainsi que ses brebis et ses troupeaux ? Et la phrase essentielle de Jésus, celui qui boit de cette eau, mon eau vive, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voilà l'enseignement de Jésus à la Samaritaine. La logique aurait voulu qu'à ce moment-là, la Samaritaine dise « Cet homme est fou. Il a soif et il me parle d'une eau différente de celle qu'il y a dans ce puits. » Elle ne pense pas du tout ça. Au contraire, elle est comme les Juifs après le miracle de la multiplication des pains. Elle se dit, « Ah, cet homme-là, s'il peut me procurer l'eau courante, s'il peut faire que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de puiser ici, ouf !» Elle a trouvé quelqu'un qui va lui simplifier la vie, qui va lui enlever une partie de son travail. Donc, elle se met à l'écouter. Jésus, voyant cela, la logique, ça aurait été que Jésus lui dise, bon, t'as rien compris à ce que je raconte. Donc, bon, allez, au revoir. C'est pas du tout ce qu'il a fait. Jésus, il a eu envie d'expliquer à la Samaritaine ce que c'était que l'eau vive. Mais est-ce que la Samaritaine pouvait comprendre ce que c'était que l'eau vive, d'après vous ? Impossible. Pourquoi impossible ? Mais Jésus, un jour, il a dit, il est beaucoup plus tard dans l'histoire, il est à Jérusalem et à la fin de la fête de la Pâque, il dit, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Et Jean, à ce moment-là, précise, Jésus parlait de l'Esprit qui allait venir. L'Esprit n'était pas encore venu parce que Jésus était là, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc, il n'était pas mort et ressuscité. Donc, la Samaritaine ne pouvait pas comprendre cette histoire de l'eau vive. Donc, la logique aurait voulu que Jésus lui dise, mais écoute, tu ne peux pas comprendre aujourd'hui, tu vas attendre quelques mois, quelques années, et puis il y aura la Pentecôte, et là, tout s'éclaircira pour toi. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il s'est dit, je vais préparer le cœur de cette Samaritaine à me recevoir. Et il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. C'était pas n'importe quelle phrase qu'il prononçait. Parce que cette Samaritaine, elle n'était pas très claire sur ces histoires de mariage. Mais elle n'ose pas le dire. Elle n'ose pas le dire qu'elle a laissé tomber l'ordre de Dieu. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront qu'une seule chair. Alors au contraire, elle dit, je n'ai pas de mari. Ce qui était vrai. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as en ce moment n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Imaginez que quelqu'un vous dise quelque chose que vous ne lui avez pas dit, qu'il n'est pas censé savoir, ça vous fait quelque chose. Et là, la femme samaritaine, elle est touchée. Jésus a mis le doigt sur son péché. Et à ce moment-là, elle trouve que Jésus, c'est quelqu'un d'un peu exceptionnel. Elle lui dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. » Montagne en Samarie. « Mais vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » La logique aurait voulu que Jésus, à ce moment-là, dise à la Samaritaine, « Tais-toi, tu sais rien. » Mais Jésus voulait que la Samaritaine découvre qu'il était, lui, plus qu'un prophète. Donc, deuxième étape, faire comprendre à la Samaritaine le grand changement qui était en train de s'opérer par la venue du Fils de Dieu dans le monde. Donc, au lieu de faire taire la Samaritaine, de chercher à imposer quelque chose à la Samaritaine, il lui dit « Femme, crois-moi, le jour vient où ce ne sera ni sur votre montagne, ni à Jérusalem qu'il faudra adorer. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est là l'adoration que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Jésus, en disant cela, est en train de dévoiler à la femme samaritaine quelque chose d'essentiel. La nouvelle alliance entre Dieu et les hommes n'est pas une alliance entre Dieu et un peuple, mais entre Dieu et tous les hommes. Elle s'ouvre avec l'arrivée de Jésus sur la terre, ce Jésus qui est la personne que la samaritaine rencontre. La samaritaine sait qu'un jour, un Messie doit venir. Et elle ne sait pas qu'elle est en train de lui parler. Mais Jésus la prépare à cette rencontre. Alors la Samaritaine dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Et quand il sera venu, il annoncera toutes choses. » Et à ce moment-là, que fait Jésus ? Je le suis, moi qui te parle. La logique aurait voulu qu'à ce moment-là, la Samaritaine, tombe à genoux devant Jésus, de la même façon que Thomas. Elle aurait dû, à ce moment-là, tomber à genoux de Jésus et dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Qu'est-ce qui se passe ? Ah, vous ne connaissez pas l'histoire. Eh bien, à ce moment-là, les disciples reviennent du marché. Et ça casse tout. Fin de l'entretien. Les disciples reviennent du marché. Ils sont étonnés de voir Jésus qui parle avec une femme. Non seulement ils sont étonnés de voir que Jésus parle avec une femme, mais c'est une femme samaritaine. Rappelez-vous, samaritain, palestinien. Pourtant, et ça c'est tout à leur honneur, l'évangéliste dit qui sont étonnés, mais aucun ne demande à Jésus qui est cette femme et qu'est-ce que tu lui disais. Il reste complètement silencieux là-dessus. Mais en voyant les disciples arriver, que fait la femme ? Elle se dit, peut-être c'est pas trop ma place là. Donc, elle s'en va. Et qu'est-ce qu'elle oublie ? Elle oublie sa cruche. La logique aurait voulu que elle revienne chercher sa cruche. Elle est venue au puits pour chercher de l'eau avec sa cruche. Elle repart avec rien. Mais si elle avait fait ça, l'histoire serait triste. Non, elle a voulu aller courir dans sa ville pour annoncer à tous ses amis, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Et on arrive donc à l'évangélisation. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Son témoignage, mes amis, il a dû être vraiment fort. Vraiment, vraiment, vraiment fort. Parce que, quand elle dit cela aux Samaritains, les Samaritains, tous ses amis, ils filent vers Jésus. C'est formidable. Elle dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Christ ? Hop ! Tout le monde part voir Jésus. Ils arrivent vers Jésus et ils lui demandent de rester là, en Samarie. Vous vous rendez compte ? Vous imaginez, aujourd'hui, à Gaza, un chrétien qui arrive dans Gaza, « reste là, on a besoin de savoir. » On n'est pas encore prêt à ça. Mais là, donc, les Samaritains demandent à Jésus de rester dans leur territoire. Et Jésus, en effet, reste avec eux 2 jours. Et au bout des 2 jours, vous savez ce que les Samaritains disent à la femme ? Ça, ça a dû être dur pour elle. Mais ça peut vous arriver, hein. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. Mais nous l'avons entendu, Jésus. Et nous savons qu'il est le sauveur du monde. Parce qu'elle a rencontré Jésus, la Samaritaine a témoigné. Des personnes ont été sensibles à ce qui lui arrivait. La logique aurait voulu qu'immédiatement ces gens soient transformés. Mais pour connaître véritablement Jésus, il fallait une rencontre personnelle. Alors souvenez-vous de la dernière phrase de mon introduction. Je vous la rappelle, ce sera ma conclusion. J'espère qu'à la suite de ce message, vous comprendrez mieux cette phrase de Jésus, « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et par ricochet, pourquoi, chers frères et sœurs, nous n'arrivons pas à comprendre pourquoi certains membres de nos familles, nos meilleurs amis, restent insensibles à Dieu alors qu'ils trouvent nos amis chrétiens tout à fait gentils et accueillants. La réponse, elle est dans cette histoire de la Samaritaine et des Samaritains. Dans cette histoire de l'eau vive qui est l'Esprit de Dieu. Pour que nos bien-aimés fassent une rencontre personnelle avec Jésus, il faut que l'Esprit les en convainc. Il faut qu'ils acceptent de recevoir Christ, et recevant Christ, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, pour ceux auprès de qui on témoigne, ils peuvent avoir une perception de Jésus à travers ce que nous sommes. Donc attention à ce que nous sommes, attention à notre témoignage non parlant. Mais ils ne peuvent faire une rencontre avec Jésus que si elle est personnelle. Cette rencontre ne peut pas se faire à travers nous. On est bien au clair là-dessus. Et pour que cette rencontre se fasse, c'est l'Esprit de Dieu qui va les en convaincre. Il doit les convaincre de péché, de justice et de jugement. Tant que tous ceux que nous aimons, que nous voulons voir venir à Dieu, tant que tous ces gens-là n'ont pas compris cela, ils ne peuvent pas venir à Christ. Pour qu'ils viennent, il faut qu'ils entendent son appel, il faut qu'ils y répondent. Par conséquent, prions pour eux.